משה אומר אני רוצה לרקוד.
לברד, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun.
Ben écoutez, bonsoir à tous. Donc vous êtes à l'émission, avec l'émission, pardon, La Vérade, l'émission du consistoire israélite de Marseille. Une émission un petit peu particulière aujourd'hui, puisque nous sommes en train d'inaugurer les nouveaux locaux de la radio juive de Marseille au deuxième étage du centre judaïcité, donc du centre Edmond Fleng. Et donc c'est la première émission, nous avons la primeur de l'affaire. En plus aujourd'hui j'ai une invitée de choix, une invitée de qualité. Donc je vais d'abord vous la présenter, puis on va commencer un petit peu à discuter tous les deux pendant la petite demi-heure qui nous vient. Et donc encore merci à vous toutes, à vous tous de nous recevoir tous les mercredis avec autant de gentillesse et autant d'hospitalité. Donc aujourd'hui, Caroline Posementier-Sportiche, bonjour.
Bonjour Marc.
Alors regardez, Caroline, on se connaît depuis des années. J'ai fait un petit peu dans ma mémoire, j'ai fait un petit peu le souvenir de toutes nos rencontres. On s'est connus, tu es encore lycéenne.
Oh sûrement, oui.
Et donc j'ai vu ton parcours, je me rappelle à l'époque, alors les lycéennes à l'époque, je vous racontais un petit peu comment ça se passait. Il fallait que les plus grands, comme moi j'étais à l'époque, on aille demander aux parents l'autorisation de sortir, de vous ramener. Je me rappelle que j'étais venu chez tes parents parce qu'il y avait une soirée, qu'il fallait venir.
Vous nous permettiez effectivement, à d'autres, à Nathalie Bensemoun, à Sandra Marciano, nous étions une belle équipe.
C'était une très très belle équipe.
La jeunesse allait aux 80,
exactement.
Bel endroit pour notre jeunesse.
Exactement, et puis donc le temps a passé, et puis elle a fait ses études, elle est devenue, elle a été au barreau en
95, prestation de serment. Alors j'étais déjà maman de deux enfants, mais bon, j'avais pris un peu de temps pour tenter des troisièmes cycles et puis m'occuper un peu de mes jeunes enfants. Donc j'ai prêté serment, j'avais 30 ans.
Bon, de toute manière, Caroline, tout ce qu'elle fait, elle le fait bien, puisqu'en dehors de ça, donc elle est maman, elle est même mamie aujourd'hui,
oui,
d'un petit garçon, et ça, je crois que c'est la plus belle des choses qui puisse arriver. Et puis on dit souvent que derrière un grand homme se cache une grande femme, mais moi j'ai envie de dire l'inverse aujourd'hui, derrière une grande femme se cache un grand homme, puisque ton mari, que je connais très bien, on s'est connu tout enfant, tout petit, on faisait des cures à la Bourboule pour l'asthme. Moi, j'avais 5 ans, il était tout petit, il était tout jeune à l'époque. Ouais. Et puis, c'est quelqu'un d'efficace, de discret.
Ouais, et
je crois que.
Mais dans la discrétion.
Voilà. Et je crois que pour que ça marche, il faut que les deux soient vraiment en correspondance totale. Et c'est votre cas,
en
et c'est un plaisir de vous voir.
Et une grande liberté de faire. Surtout pour notre communauté.
Ouais, c'est vrai que pour les accompagnants, c'est pas toujours facile d'avoir une vie publique et communautaire. Donc, Thierry, écoute, si tu nous écoutes, et je sais que tu nous écoutes, non seulement je t'embrasse, et puis je te remercie de nous laisser Caroline aussi souvent et aussi longtemps.
Merci.
Voilà, en tout cas, le temps passe, mais le temps te va bien, puisque tu n'as pas pris une ride, Caroline.
Non, très gentil.
Non, c'est sincère. Bon, peut-être j'ai la vue qui baisse aussi, mais je crois pas. Mais tu n'as pris aucune ride aussi bien physiquement que dans ton engagement professionnel, dans ton engagement politique, dans ton engagement communautaire. Tu es rentré en politique qu'à l'année 2008, si j'ai bonne mémoire.
Absolument.
Auprès de Monsieur Godin.
Godin, dans l'équipe Godin-Muselier, c'était mon premier mandat que j'ai remis en 2014, donc 12 ans adjointe au maire. À la mairie en charge d'une belle délégation qui est la sécurité, la prévention de la délinquance auprès de la police municipale. Ça a été vraiment une belle expérience à la fois humaine et de terrain.
Alors Caroline, une question personnelle, mais je pense que nos auditeurs aimeraient mieux te connaître aussi dans ce domaine-là. Quel a été ce virage vers la politique? Je veux dire, c'est venu comment? Bon, ton papa était quelqu'un d'engagé,
oui.
Un monsieur qu'on respectait
très
beaucoup.
Franchement, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours voulu en faire. Bon, c'était pas le moment. Des enfants trop jeunes en 2001, quand on m'a proposé du bout des lèvres, parce qu'il y avait cette loi sur la parité, ils avaient besoin de femmes. Moi, j'avais des enfants trop jeunes. J'avais vu mon père qui s'est engagé en politique avec Renaud Muselier en 1995 et Jean-Claude Gaudin quand ils ont gagné la mairie de Marseille. Bon, je suis baudorée que pour une mère de famille, c'était quand même pas évident. Vous voyez, il y a des combats qui ont été gagnés depuis, hein, tu vois bien. Pour autant, 2006, je sais pas, écoutez, puisqu'on est à l'antenne Radio JM, je crois que je vais m'ouvrir complètement.
Oui, c'est sans tabou,
père,
sans baratin, on parle librement.
Mon père, Serge Posementier, que vous avez bien connu. Et je crois que je fais un petit peu un parcours...
sur les traces de papa.
Comme une thérapie, voilà.
Ouais,
donc là, je dis, ok, c'est le moment... J'ai très envie. J'avais en 2006 avec une belle équipe fondé l'antenne régionale de la Chambre de commerce France-Israël. je pensais que c'était le bon moment. J'étais rentrée au comité directeur du CRIF. D'ailleurs, mon père n'a jamais été au comité directeur du CRIF, ni même au CRIF. Mais je me disais que là où j'étais, je lui faisais toujours un petit signe, et lui aussi. Et puis, en 2007, fin d'année 2007, alors que j'avais effectivement fait acte de candidature, on m'a proposé de rentrer donc dans l'équipe de campagne. Puisque j'avais été, c'est un vrai baptême du feu, hein, porte-parole de la campagne. Et quand nous avons gagné cette belle délégation, tout de suite adjointe au maire, c'était quand même...
C'était aux côtés de M. Léon Blum à l'époque, ou j'ai une bêtise?
Alors Roland Blum, qui était tête de liste dans le 11-12. Roland, donc, j'étais sa deuxième de liste. Hein, nous avons donc ensemble, en binôme, travaillé sur ce secteur qui m'a toujours tenu beaucoup à cœur, qui n'est pas un secteur facile. D'ailleurs, je salue l'actuel maire Sylvain Souvès qui fait un très bon boulot. Oui, c'est un secteur auquel j'ai toujours été très attachée sur le plan municipal. Pour autant, je n'ai jamais envisagé ni de candidater sur d'autres mandats dans ce secteur-là. D'autres l'ont fait. On verra, on écrira la suite, voilà.
Si Dieu veut. Carole, en tout cas, ce parcours, on l'a tout suivi de près ou de loin. Mais les raisons pour lesquelles j'avais envie de te recevoir aujourd'hui, c'est que tu as une action communautaire qui est quand même assez importante. D'abord, on te remercie de nous avoir rejoints au niveau de l'équipe du Consistoire israélite de Marseille. Tu nous as fait cet honneur et ce plaisir de nous rejoindre pour notre deuxième mandature. Et puis, tu as aussi une responsabilité énorme, c'est l'AFMA. Donc, tu vas nous parler peut-être un petit peu de cette association que peut-être des gens ne connaissent pas complètement. Elle existe quand même depuis 30 ans. Donc, tu en es la présidente. Je pense que c'est toujours pareil. C'est un petit clin d'œil au papa Serge qui nous manque à tous, hein, pas qu'à toi, tu le sais. Et puis, donc, parle-nous un petit peu de l'AFMA, ton engagement là-dedans. Et après, tout doucement, on va arriver à ce grand rendez-vous pour dimanche prochain où toute la communauté, religieux, pas religieux, sioniste, pas sioniste, doit être présente. On va vous expliquer pourquoi.
Très bien. Écoute, merci Marc. Donc effectivement, peut-être le moment de rappeler qu'il y a eu aussi les mandats régionaux avec la présidence de la Mission Estrosi de Renaud Muselier. Qu'à la région, j'ai aussi la chance dans une des responsabilités de m'occuper de ce qui s'appelle Mémoire et Citoyenneté, qui est un programme qui est...
La FARC s'appelle un nom comme ça? C'est la FARC, c'est ça le...
Programme Mémoire et Citoyenneté, qui est en fait une convention signée entre le Mémorial de la Shoah, la région et le rectorat, et qui permet effectivement de travailler avec les lycées sur des projets qui sont sélectionnés par un jury et qui donnent lieu au voyage de la mémoire que fait la région chaque année à Auschwitz-Birkenau ou sur d'autres sites comme le 1er février, je partirai à Buchenwald avec des lycéens. Alors tout ça nous ramène bien sûr à un engagement communautaire. Qu'est-ce que c'est qu'un engagement communautaire? Ben, je crois qu'il est chevillé au cœur et au corps. Hein. Alors parfois c'est en étant à la frontière, parfois c'est en étant complètement dedans. Là, je suis vraiment très heureuse d'être avec cette équipe du Consistoire. Je tenais vraiment à le dire avec beaucoup de sincérité. Il y a beaucoup d'intelligence et de bienveillance et ça fait du bien. C'est un petit peu ce dont on a besoin aujourd'hui dans tout rassemblement et dans tout collectif. C'est pas facile, hein, mais bon, je pense qu'aujourd'hui on doit tenir le bon bout comme ça. Et puis l'engagement de l'AFMA, bah, c'est un engagement qui... Enfin, c'est plus qu'un engagement, c'est une identité, c'est une histoire personnelle. Il y a à peu près 15 ans, je dirais, ouais, peut-être un peu plus, j'avais poussé la porte d'ailleurs d'ici du centre FLEG, de la salle qui est au rez-de-chaussée, où se réunissaient les survivants de la Shoah, les rescapés, qui étaient donc fondateurs à la fois de l'Amicale des déportés, un petit clin d'œil à Denis Toros-Marter, et de l'AFMA antenne marseillaise, parce qu'en fait elle était régionale, mais elle était surtout marseillaise, présidée par Ida Palombo. Il y avait également Henriette Cohen.
Des gens qui nous manquent beaucoup et à qui on pense énormément.
La mère de Laurent et d'Élise Cohen, la maman de Bernard, enfin, je ne vais pas citer toute la famille parce que c'est une belle revanche de la vie, ses enfants, ses petits-enfants, ses
arrières. Son arrière-petite-fille qu'on a vue lundi soir.
Absolument. Il y avait également des hommes comme Albert Vesside, Raphaël Attali. Bon, et je vous avoue que je t'avoue que quand j'ai ouvert cette porte, tu vois, je suis rentrée sur la pointe des pieds et je me suis assise et je me suis sentie plutôt bien. J'avais envie de les entendre, de les accompagner. Nicole Cohen, la belle-fille d'Henriette, est venu également. Et puis on a lié une amitié. Moi j'ai lié une amitié avec Ida Palombo qui était quasi maternelle. C'est-à-dire pour moi, elle était un peu peut-être la grand-mère que j'ai pas eue parce que
tu as imaginé peut-être.
Le 16 juillet 42, à l'occasion de la rave du Veldive, mon père et ma grand-mère ont été arrêtés. Ma grand-mère est partie vers Drancy, Auschwitz par le convoi numéro 11. Elle n'en est jamais revenue. Mon père était un enfant caché. Il a vécu, alors lui, avec un engagement qui était plutôt dans l'ombre, hein, on va le dire. Il n'était jamais devant. Il était derrière et croyez-moi qu'il était vraiment là, très présent. Voilà, donc l'AFMA, pour moi, ça a été une évidence. Alors au début, c'était avec beaucoup de pudeur, parce que bon, il faut savoir que les enfants, les petits-enfants, on est quand même, surtout les enfants, les petits-enfants, je dirais, de rescapés, quand on n'a pas eu une restitution de notre histoire par une grand-mère ou un grand-père, ou même un oncle hein, qui est revenu et qui nous a expliqué. Nous, on s'accroche un petit peu à des bribes d'informations que nos parents ont bien, enfin mon père en l'occurrence avait bien voulu nous lâcher avec mon frère, mais c'était pas évident, il en parlait pas. Je pense que mes enfants, ces petits enfants, les enfants de mon frère l'auraient fait parler. C'est souvent le cas d'ailleurs dans les familles. C'est la deuxième génération, les petits enfants qui les ont fait.
Alors à ce sujet, Caroline, excuse-moi de te couper. Non seulement tu as doublement raison en disant que c'est les petits enfants qui en général deviennent les premiers témoins, mais un jour j'avais parlé avec Monsieur Mizrahi, Robert, que tout le monde connaît, et il m'avait dit une chose qui m'avait impressionné, qui m'a marqué. Je l'ai encore en tête. C'était dans les années 80-92. Il m'a dit: je remercie Jean-Marie Le Pen. Comment tu remercies Jean-Marie Le Pen? Il m'a dit oui. Il m'a dit parce que quand il est arrivé au second tour des élections présidentielles et que lui il parlait d'un détail de l'histoire, j'ai compris qu'on n'aurait jamais dû se taire. Parce que si on continuait à se taire, qu'on parlait pas à nos petits-enfants, puisque nos enfants, on a voulu les protéger, eh ben, peut-être que l'histoire, elle serait complètement oubliée. Et donc, c'est vrai que tout ça se retrouve dans toute cette histoire actuelle.
C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que dans les années 80.
Parce que ton papa, j'imagine qu'il avait du mal à vous parler de tout ça par pudeur, par repli.
D'ailleurs, bon, je le dis, mais il faut que j'arrête de le dire. Maintenant, il faut que je le fasse. J'ai commencé quand même à faire quelques recherches et j'ai très envie. Lui-même disait toujours, j'écrirai mon livre, le sac de billes à côté. Alors, bon, c'est des paroles d'enfant. Hein.
Mais Denise l'a fait, en tout cas.
Denise, c'est une rescapée. Elle a vraiment vécu. Et c'est un petit peu aussi les enfants de la guerre, les enfants cachés. Il y avait une telle pudeur de se dire, nous, on n'a pas vécu ce qu'ils ont vécu, donc on ne parle pas. Déjà, estimons-nous heureux. On nous a cachés, on a mangé. On a eu chaud, contrairement à ceux qui ne sont pas revenus ou qui ont vécu. Et c'est vrai que mon père disait toujours, un jour j'écrirai mon livre de Montparnasse, là où il était né, au Mont-Sion, grand sioniste, hein, vous le savez, tu le sais très bien, de Montparnasse au Mont-Sion. Et ça, c'est quelque chose qui nous est resté gravé dans...
Il va falloir te mettre à l'écriture.
Courage et d'accompagnement. J'ai la chance avec vraiment mes amis de l'AFMA et du Mémorial de la Shoah pouvoir vraiment m'y mettre, à moi de me bouger, à nous tous, parce que c'est aussi une façon de transmettre un témoignage. Donc, on revient à l'engagement de l'AFMA, ou du moins l'action de l'AFMA. Alors, l'action de l'AFMA, bien entendu, nous en sommes les héritiers aujourd'hui. Hein. Nous avons la chance d'avoir encore Denise Tauros-Marter, qui a vécu l'horreur. Nous avons les enfants, comme tu as cité Robert Mizrahi. On a Albert Barbout, notre président d'honneur, qui lui était le très proche de mon père, parce que c'était les Parisiens de Marseille. Hein. Ils sont nés la même année, en 1933, donc bon, ils ont des histoires différentes, mais bon, ils se parlaient, ils se comprenaient très bien. Et puis d'autres encore, hein, récemment, nous avons travaillé avec le Mémorial de la Shoah, avec qui nous avons poursuivi les voyages de la mémoire qui partent tous les ans de Marseille, enfin de l'aéroport de Marignane, avec près de 180-200 personnes. Ce sont à la fois des lycéens, des collégiens, des enseignants, mais aussi ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la société civile, c'est-à-dire tous ceux qui nous disent « je n'y suis jamais allé, j'aimerais pouvoir le faire, comment ?» Donc ces voyages, on leur a promis de les perpétuer, on les perpétuera tant qu'on pourra. On a la chance d'être accompagné par le Mémorial de la Shoah, c'est quand même une grande expertise. Hein. Ce sont des historiens, des profs d'histoire qui sont formés, on a des équipes extraordinaires. Et puis est arrivée la crise sanitaire. Et la crise sanitaire, on n'a pas pu voyager en 2021. 2022, ça a failli être compromis, mais bon, on a réussi à sauver le voyage au mois de décembre, là, tout récemment. Et là, on s'est dit, on peut pas rester sans rien faire. Et on a proposé au Mémorial de la Shoah de venir avec leur réalisateur, leur caméra, filmer ceux qui n'avaient jamais parlé. Et il y en a encore beaucoup. Et on en découvrait, et encore là, et là, et là. Et donc, nous avons peut-être près de 80 personnes qui ont témoigné face aux caméras depuis 2 ans, de toute la région, puisque nous sommes allés grâce à d'autres personnes. Je pense à Michel Merovka, dans les Alpes-Maritimes, ou d'autres encore, qui nous ont dit, mais venez, venez, vous allez entendre telle personne. Et là, on a vécu des moments incroyables, hein, de témoignages d'enfants. On a reçu des coups de téléphone de leurs enfants. Certains vivent en Israël, nous disant, mais mon père, je pense à Charlène Mallet, mais jamais mon père ne nous avait raconté et tout oui. ça. Bon, voilà. Donc, tout ça pour dire que parler encore. Nous avons une tradition qui est quand même une tradition orale, et nous avons cette chance. Nous sommes
le symbole de la fête de Pessah. Le symbole de la fête de Pessah dont on
raconte. C'est vrai que cette transmission orale, elle ne se fait plus. On a la chance qu'elle puisse encore se faire parfois dans certains foyers parce que la vie familiale n'est plus ce qu'elle était, parce que. Parfois, on n'a pas connu ses grands-parents, mais toutes ces archives aujourd'hui qui sont dans le coffre-fort magnifique, bien préservé du Mémorial de la Shoah, elles vont être à destination de tous, à la fois des familles, mais aussi des chercheurs demain, des lycéens, des collégiens. Et donc, très vite, la prise de conscience est de se dire qu'ici, à Marseille, si on reste qu'à Marseille, il y a une histoire incroyable et qui n'est pas assez connue. Et tout de suite, on a à la mémoire janvier 43. Alors, il y a eu d'autres choses certainement avant, notamment les arrivées des Juifs de Grèce, d'Italie, mais aussi du bassin méditerranéen, hein, qui étaient là, d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, des Turcs, et qui vivaient Marseille, ville-refuge, avec des petits métiers, mais qui étaient heureux, hein, qui vivaient bien, qui étaient venus... et puis, comme dit Lida Palombo dans son livre, qui vivaient bien ensemble. Et puis, la période, bien sûr, de l'occupation et de l'occupation de la zone libre, novembre 42, arrive, et on a ces effroyables, terribles, horribles événements de janvier 43, ce qu'on appelle le temps des rafles, Marseille sous la botte de l'occupant. Et comment faire pour que ces événements soient dans la conscience collective nationale, mais au moins marseillaise? Alors on a toujours pareil, des militants et des hommes comme Victor Algazi, comme Robert, comme mon père, comme d'autres, qui n'ont pas attendu, hein, qui ont depuis longtemps demandé à ce qu'il y ait
un rassemblement. Mémoire.
Place de l'Opéra, 1992, pour les 50 ans. De l'anniversaire, triste anniversaire des rafles. Moi, j'ai pas eu le temps de l'amener ici, et puis bon, on aura l'occasion de le voir. J'ai un petit fascicule, document qui relate ces 50 ans. Et quand on voit le monde qui est place de l'Opéra ce jour-là, ben on se dit que depuis 1992, on a peut-être perdu l'habitude d'être des militants de la mémoire et qu'il faut vite qu'on s'y remette. Parce que quand on voit ce que nous traversons aujourd'hui, d'actes antisémites, de confusion...
D'oubli de l'histoire, d'oubli, puisque...
De fake, ouais. L'information est tronquée. Tous les historiens de France ne suffiront pas, même s'ils sont de bonne volonté, à transmettre ce que nous avons, nous, témoins des témoins, à transmettre, pour que... Chaque histoire, chaque visage, chaque famille et sa place dans la grande histoire et notamment celle des Juifs à Marseille.
Justement, dimanche, Caroline, donc on va célébrer les 80 ans de cette rafle tellement oubliée. Elle est venue juste après la rafle du Valdiv et je suis aujourd'hui outré parce que depuis dimanche, on communique tous ensemble là, au niveau du consistoire et des amis et des gens qui sont impliqués là-dedans. On voit même au niveau des journalistes, au niveau des écrits, au niveau des journaux, presque une petite virgule sur la rafle des Juifs. Et on parle beaucoup de la rafle de Marseille, mais on oublie beaucoup tout ce qui est arrivé à ces centaines et centaines de Juifs qui ont été déportés devant leurs femmes, leurs enfants. Enfin, ces horreurs qui ont coexisté, qu'on a pu entendre lundi soir, puisqu'on a été accueillis par Madame Martine Vassal au conseil départemental, où tout le monde a eu la parole, les Italiens, les Juifs, les non-Juifs. Mais on a senti quand même cette union. Et je vais dire un mot, Caroline Escoin, puis après je rends la parole. Chaque année, quand je prends la parole après la commémoration de la rafle de Marseille, je pousse un coup de gueule à la radio. Un coup de gueule parce que je ne comprends pas qu'on soit si peu nombreux. Alors cette année, c'est les 80 ans. Cette année, c'est Monsieur Benoît Payan, la mairie, qui ont pris un peu en responsabilité cette journée qui va être mémorable. Cette année, il faut que vous soyez, que nous soyons tous là. Il va faire froid, c'est pas grave. Il y a des gens qui ont vécu dans le froid pendant des années, sans chaussures, sans rien, sans vêtements, avec simplement un morceau de pain pour vivre la journée. Et ces gens-là, ce sont nos grands frères, nos grands-pères, nos grands-mères, ce sont ces gens-là pour lesquels nous sommes là. Et Caroline, je t'écoutais parler avec énormément d'attention tout à l'heure. Mais je réalise que tu as un poids énorme sur tes épaules. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un peu la mémoire qui va être transmise. Malheureusement, ces gens-là, il y en a de moins en moins et tu leur donnes la vie le plus longtemps possible. Mais je vois que tu es en train de prendre le relais et donc tout ça, c'est ta responsabilité puisque tu es toi-même la coordinatrice entre la mairie et la communauté pour cette journée. Donc parle-nous de cette journée. À quelle heure on doit venir? Qui y aura? Est-ce que tu as des informations à nous donner? On a parlé du fils de Simone Veil, on a parlé peut-être de ministre, alors, on va pas donner de nom, mais parle-nous un petit peu de cette journée.
Donc, Marc, il faut comprendre que l'AFMA a été contributeur ou contributrice du projet des 80 ans des rafles, au même titre que nous étions en contribution lundi soir pour la cérémonie organisée par Martine Vassal au département, qui a été effectivement très réussie. Mais j'aime bien replacer les choses dans leur contexte. La ville de Marseille, quelles que soient les années depuis 1992, a toujours été à l'organisation de cette commémoration. Il en va de sa compétence, notamment des anciens combattants, la propriété de l'espace public avec les monuments. Mmh. Nous avons dans cette ville un site comme le site de la place où il y a ce monument où nous réunissons. Il y a également l'opéra avec une plaque qui a été installée en 93 par l'association justement de mémoire, hein, amicale des déportés, l'AFMA. Et puis il y a un mémorial de la déportation. Bon, ce n'est pas de la déportation des Juifs, mais de la déportation des habitants de Marseille. Et ça a toujours été ainsi, ce n'est qu'en 92 qu'il y a eu ces deux temps voulus pour qu'on se rappelle que la singularité du génocide juif existe. On n'est pas dans une concurrence, elle existe et que c'est parce que nous expliquons l'histoire ou que nous la faisons expliquer par des personnes compétentes que nous pouvons mieux transmettre ce qui s'est passé. Il s'est passé effectivement que la solution finale devait aller beaucoup plus loin et que la France devait donner encore plus de juifs aux nazis. Et que lorsque ils arrivent à Marseille, alors à confirmer par des historiens, tout ce que je dis n'a pas valeur de scientifique, le plan d'évacuation, de dynamiter le vieux port ou les vieux quartiers n'arrive pas ce jour-là. Il était antérieur où il y avait peut-être un projet de réhabilitation de ce quartier. Certains vous parleraient de volonté de travailler par des promoteurs de l'époque, un peu scrupuleux. Bon, mais il faut savoir que ce qui est au cœur de la politique nazie antisémite, et c'est l'extermination des Juifs d'Europe. Et cette extermination des Juifs d'Europe, elle n'a pas de limite. Et arriver dans une ville comme Marseille, où il y avait une forte concentration de familles juives, hein, je l'ai rappelé tout à l'heure, notamment dans certains quartiers, aux abords de l'Opéra, mais aussi dans le grand centre-ville. Hein, quand on parle de la rafle du Vieux-Port, on peut parler de ce qu'on veut, mais enfin, on est dans le même quartier. On est à l'Opéra, on est rue Francis Davceau, certains me disent rue Sainte, on ne sait pas pourquoi. On a été de façon miraculeuse dans la nuit du 22 au 23 épargné, mais bon, on s'est occupé de nous après. Enfin, c'est tout ce grand centre de Marseille qui est visé. Et dans la nuit du 22 au 23, c'est quand même une nuit de Shabbat. C'est cette nuit-là où une opération policière sans précédent est organisée pour arrêter les familles. Certaines, par miracle, ne seront pas entièrement arrêtées, d'où la chance aujourd'hui d'avoir des témoins de cette rafle. Et vous le verrez, on va revenir sur la journée du 29. Il faut savoir que toutes ces familles, 1642 arrestations, 782 hommes, femmes et enfants et vieillards sont envoyés d'Arinque à Compiègne, et que de Compiègne, alors que 20 000 personnes ont aussi été évacuées, que les trois quarts sont partis à Compiègne, de Compiègne, 600 hommes non juifs, hommes, sont partis vers Sachsenhausen, mais 804 familles, dont 25 enfants de 10 à 17 ans, sont partis à Drancy, Drancy, convoi 52-53, dit convoi des Marseillais, exterminé à Sobibor. Je crois qu'il y a eu 5 survivants. Donc tout ça, c'est pas pour faire une échelle de quoi que ce soit, c'est parce qu'il faut raconter l'histoire pour alerter aujourd'hui le présent. C'est ainsi que ça s'est passé, et c'est ainsi que nous devons le transmettre. Et bien sûr, Marseille a été aussi, tous ses habitants ont été victimes de cet extrémisme, cet antisémitisme, de ce fascisme organisé avec la collaboration de Pétain et de ses sbires.
Et de Monsieur Bousquet.
Et de ses sbires comme Bousquet.
Pourquoi je dis monsieur, je ne devrais même pas dire ça.
Donc, l'histoire appartient à la mémoire collective. Et la mémoire collective, c'est à nous à l'éclairer tout le temps. Et si c'est un combat, ben, il faut continuer.
Il faut se battre.
Mais ce combat, il ne peut pas se faire dans des salons, dans des tribunes et dans de beaux discours.
Alors regarde,
Caroline. Il se fait dans les écoles.
Oui, justement.
Et il se fait par une présence sans précédent pour les 80 ans, dès dimanche. Alors dimanche matin, la cérémonie 10h-10h30 mairie, aux abords de la mairie, comme beaucoup la rejoignent depuis quelque temps, mais pas assez, mais surtout une présence dans la continuité de celle du matin, puisque nous venons de l'apprendre. Il y aura une présence ministérielle, alors on ne sait pas encore qui sera là, mais qui chamboule un petit peu ce qui était inscrit dans les derniers cartons d'invitation. Soyez dès midi, place de l'Opéra.
Midi, plus 14h.
Il me semble, tout ça sera précisé. Midi me paraît une heure convenable pour être très nombreux, place de l'Opéra. À l'issue des discours et des dépôts de gerbes, nous rentrerons dans l'Opéra, où pour les 80 ans, la ville de Marseille ouvre les portes de l'Opéra pour que nos anciens, notre jeunesse et que les Marseillais, et j'espère qu'ils seront là dans leur diversité, remplissent cet opéra qui, il y a 80 ans, résonnait comme un lieu d'un spectacle immonde. Et ce jour-là, nous avons prévu, avec le mémorial de la Shoah et l'AFMA, de vous livrer un court film de 12 minutes où vous verrez les portraits et entendrez les témoignages de ceux qui ont vécu cette nuit-là, cette rafle. Par la suite, il y aura certainement des présentations et des allocutions parce que nous devons continuer à parler. Et puis, il faut remercier aussi le Conservatoire municipal qui produira une représentation de musique. Vous savez que la musique a été très présente dans l'esprit de ceux qui vivaient le terrible carcan et l'horreur des camps, puisque vous avez des grands artistes qui ont été internés, déportés, exterminés dans les camps de la mort. Donc ce sera un temps fort. Et puis à la fin, nous quitterons l'opéra et grâce à l'investissement sans faille du consistoire, un film du mur des noms sera diffusé et les noms seront évoqués et nous pourrons, après la prière évoquée par le grand rabbin de Marseille, rentrer chez nous et nous souvenir que c'est tous les jours que nous devons faire un acte militant pour la mémoire.
Merci beaucoup Caroline, je crois que le temps est passé trop trop vite Amy, hein, puisqu'on est en fin d'émission. Caroline, merci beaucoup. Donc je vous rappelle à chacun de vous, chacun de toutes, dimanche, ne programmez rien. On se retrouve tous à 12h devant le parvis de l'Opéra. Nous devons être présents, c'est une image que l'on doit montrer à la municipalité. J'en ai marre de voir plus d'anciens combattants non-juifs présents dans ces manifestations que la communauté juive. Nous devons être tous présents, hommes, femmes, enfants. Je veux dire, tout le monde a le droit, a le devoir de voir ce qui va se passer pendant ce moment-là. Caroline, merci beaucoup pour ton travail. On sera tous derrière toi, on sera à tes côtés et on ne va jamais laisser tomber tout ça.
C'est clair. Merci.
Je vous embrasse à tous. Passez une bonne semaine. À bientôt. Au revoir.
La Vérade, émission du Consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun.